Voilà, bonjour frères et sœurs. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 55 et au verset 7. Ésaïe, chapitre 55 et le verset 7. Nous penchons depuis ces quelques dimanches sur le thème de l'autorité spirituelle et plus précisément des conditions préalables à l'exercice de l'autorité spirituelle, et on a parlé déjà de la confession des péchés. On a vu ce que cela signifiait, l'importance que cela a par rapport à Dieu, par rapport à notre prochain et par rapport aussi aux puissances des ténèbres. On a parlé de la repentance la semaine dernière. Aujourd'hui, je voulais voir ce sujet important qui est le pardon. Et ce n'est pas un scoop, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais dans notre vie, nous aurons besoin non seulement de demander pardon, mais de pardonner d'autres personnes qui nous auront fait du tort. Alors, c'est vrai que quand on parle du pardon, il y a plusieurs niveaux. Si quelqu'un, par exemple, vous marche sur le pied, si c'est un inconnu et il n'a pas fait exprès, il vous a fait mal, il vous dit pardon, en général, vous lui pardonnez. Mais si c'est quelqu'un que vous connaissez bien, un ami, ou quelqu'un de votre entourage qui va vous insulter ou qui va vous outrager, c'est plus difficile de pardonner quand c'est quelqu'un de sa famille ou quand c'est un frère ou une sœur que l'on connaît. Eh bien là, il y a une implication émotionnelle qui est différente. Alors dans le pardon, il y a ces deux aspects. Il y a d'une part, quelle est mon implication relationnelle avec cette personne qui m'a blessé, et ça va être plus difficile de lui pardonner plus j'ai une forte relation avec cette personne ou plus je la connais bien. Et puis, quel va être le degré de l'offense? Qu'est-ce que la personne va faire pour m'offenser? Donc, ces deux facteurs vont jouer sur, moi, mon pardon, s'il va être plus difficile à donner ou plus facile. J'aimerais voir dans la parole de Dieu l'enseignement qui concerne notre attitude dans le pardon. D'abord, une première question, pourquoi doit-on pardonner? Pourquoi doit-on pardonner? Et on a la réponse dans un premier verset que je voulais lire avec vous. Une première réponse, c'est parce que on bénéficie déjà, nous, du pardon de Dieu. Pourquoi on doit pardonner? Parce qu'on bénéficie du pardon de Dieu. Si on lit Ésaïe 55 et le verset 7, « Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. » Il y a plusieurs versets dans la Bible qui nous montrent que Dieu constamment pardonne. On peut penser au psaume 103 aussi qui dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Donc Dieu pardonne. Dieu pardonne en permanence, il veut pardonner. Et on peut dire, pour commencer ce sujet du pardon, que l'origine du pardon se trouve non pas dans le cœur de l'homme, mais dans le cœur de Dieu. Dieu est un Dieu de pardon. Son cœur est rempli d'amour pour nous. Et sans le pardon même de Dieu, qui est gratuit, immérité, nous ne serions pas pardonnés, nous serions donc jugés, condamnés à la mort éternelle, à la séparation avec Dieu. Donc nous sommes bénéficiaires, en premier point, du pardon de Dieu. Dieu nous a fait grâce. Et pourquoi est-ce que Dieu nous a fait grâce? Quand on réfléchit à la grâce de Dieu, ça nous dépasse. Est-ce que c'est à cause de notre piété qu'il nous a fait grâce? Ce n'est pas à cause de notre piété. Est-ce que c'est à cause de notre caractère? C'est pas à cause de notre caractère. Est-ce que c'est à cause de notre physique? C'est pas à cause de notre physique. C'est pas à cause des choses qu'on a pu faire, même dans notre vie, des bonnes choses, que Dieu nous a fait grâce. La Bible nous montre que si Dieu nous fait grâce, c'est en vertu de son amour, parce qu'il nous a aimés le premier et il a décidé de nous sauver. S'il n'y avait pas l'amour de Dieu, s'il n'avait pas décidé de nous pardonner, on ne pourrait pas être pardonné. Donc, tout vient d'en haut. Et on doit bien réaliser que on bénéficie d'un immense pardon, et cela va nous aider nous-mêmes à avoir une attitude de pardon. Donc pourquoi doit-on pardonner? Parce qu'on bénéficie du pardon de Dieu. Pourquoi doit-on pardonner? Parce que Dieu aussi nous le demande. On peut lire un texte dans Colossiens chapitre 3 et au verset 13. Colossiens chapitre 3, verset 13, il est dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alors Paul ici évoque les relations dans l'Église. Et il montre que parfois il y a des tensions entre même les chrétiens qui vont se manifester. Ce texte a été écrit à l'église de Colosse, hein, les Colossiens, donc des croyants qui remontent au 1er siècle. Et pourtant déjà dans cette église, il y avait quelques conflits dans l'église entre chrétiens. Et il était nécessaire de se pardonner les uns les autres. Et si c'était vrai pour l'église de Colosse, je pense que c'est vrai pour les églises du XXIe siècle. Il y a toujours les mêmes difficultés, les mêmes tensions entre les frères, les sœurs, qui parfois peuvent surgir. Et la parole de Dieu, elle est écrite aussi pour l'église, les églises de tous les temps, et pour notre église. Donc finalement, ce n'est pas si étonnant, si on réfléchit bien, qu'il y ait des conflits même dans les églises, parce que là où il y a rassemblement d'individus, si vous mettez deux individus ensemble, il y a déjà un potentiel de conflit entre ces deux individus. Ils ne vont pas se comprendre sur certaines choses, ils ne vont pas être d'accord sur tout, etc. Et ça va créer des conflits. Et nous étant sauvés, est-ce que depuis qu'on est chrétien, on a cessé d'être des êtres humains? Ou est-ce qu'on est toujours des êtres humains? À moins qu'il y ait quelques anges au milieu de nous, normalement on est tous des êtres humains là. Et si on est des êtres humains, il y a toujours des potentiels de conflit. Et donc il va falloir supporter. C'est ce que dit Colossiens 3, 13. Paul dit « Supportez-vous les uns les autres ». Donc s'il faut supporter, ça veut dire qu'il va y avoir des difficultés. Et finalement, on n'a pas tous le même caractère. Et quelquefois on dit « Ah oui, mais si l'autre il n'était pas comme ça, ou s'il n'était pas comme ça, ça serait plus facile ». Et finalement, si l'autre il dit la même chose de nous, et qui a raison? Et finalement, on a tous un caractère différent. Et il faut en tenir compte. Alors c'est vrai que dans le caractère, je ne dis pas qu'il n'y a pas des progrès à faire. On a aussi, on doit ressembler davantage à Jésus et imiter le Seigneur et recevoir le caractère de Christ et chercher à lui ressembler. C'est vrai. Mais il va falloir quand même supporter les différences. Ça va créer des tensions. Et puis il est même dit, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre. Et parfois, il y en a qui sont amenés à se plaindre des autres. Pourquoi il se plaint ? Ben, en général, on se plaint pour pas mal de choses. Si on regarde bien pourquoi on se plaint, ben parce que l'autre, il n'est pas d'accord avec nous, parce que l'autre, il n'est pas comme on pensait, il a dit des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Enfin, il y a mille et une raisons de se plaindre de telle ou telle personne, soit parce que ses paroles, ça ne nous convient pas, son habillement, ça ne nous convient pas, sa manière de faire, ça ne nous va pas. Alors, une chose importante, frères et sœurs, quand nous considérons les autres, ce n'est pas parce qu'ils pensent différemment de nous qu'ils deviennent nos ennemis. Chacun a le droit d'avoir des avis personnels. Même si l'autre n'est pas d'accord avec toi, ce n'est pas pour ça qu'il est ton ennemi. Il a le droit d'avoir son opinion et c'est peut-être bien d'ailleurs qu'il y ait cette diversité. Mais si quelqu'un pense différemment, il ne cesse pas d'être notre frère dans la foi. C'est pour ça que Paul dit « Supportez-vous les uns les autres ». Si quelqu'un à sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Ce n'est pas parce que quelqu'un, on n'est pas d'accord avec lui, qu'on va avoir un conflit avec lui, que cette personne cesse d'être notre frère. Elle ne devient pas notre ennemi pour autant. Elle est toujours un frère en Christ ou une sœur en Christ, mais néanmoins, il y a un conflit à gérer, il y a des tensions qu'il va falloir apaiser, et la parole de Dieu nous montre comment ça doit se produire. Et bien, elle nous dit « pardonnez-vous réciproquement ». Alors Paul utilise un impératif, hein. Pardonnez-vous, c'est un ordre divin, c'est pour ça que j'ai dit c'est parce que Dieu nous le demande. Paul était inspiré par le Saint-Esprit et si cet ordre vient de Dieu, il nous demande de nous pardonner, eh bien c'est que nous devons le mettre en pratique, nous devons nous soumettre, à moins que nous soyons des chrétiens rebelles, car en réalité nous avons la liberté de nous soumettre ou de ne pas nous soumettre, mais en tout cas Dieu nous demande de pardonner. Pourquoi doit-on pardonner? Parce qu'on bénéficie du pardon de Dieu, on a dit. Ensuite, deuxièmement, parce que Dieu nous le demande, Colossiens 3, 13. Et puis, troisièmement, pourquoi pardonner? Parce que c'est bon pour nous. C'est bon de pardonner pour notre propre âme. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui ne veut pas pardonner, il ne sera pas heureux et il ne sera pas en paix dans sa vie intérieure. Il va ruminer. Il va se faire souffrir, non seulement lui-même, mais il va faire souffrir son entourage parce qu'il va toujours revenir sur son problème. et ça va détruire sa vie avec Dieu, ça va détruire sa vie, même sa santé, quand quelquefois la personne a développé tellement d'amertume, de colère, d'animosité, qu'elle en est elle-même toute malade. J'ai connu un cas extrême comme cela d'une dame qui était tombée dans un coma profond pendant plusieurs jours, sans explication médicale. Elle était tombée comme cela, et dans ce coma, c'était une chrétienne, Dieu lui a parlé qu'il fallait qu'elle se réconcilie avec son frère. Ce n'était pas un frère en Christ, c'était aussi un frère en Christ, mais c'était surtout dans la famille, dans sa famille. Il y avait un problème dans la famille. Donc un frère à elle, il y avait un gros conflit entre le frère et la sœur. Et cela l'a plongée dans une maladie très longue, et il a fallu qu'elle pardonne à cet homme pour pouvoir être complètement guérie. Il y avait donc quelque chose de profond lié à un manque de pardon dans sa vie qui l'avait affecté dans la santé, c'est un exemple, mais pour montrer que si on ne pardonne pas, on va avoir des conséquences. Mais si on pardonne, c'est bon pour nous et ça va nous libérer, ça va nous délivrer. Et Dieu veut nous éviter d'être malade ou d'être malheureux ou de souffrir des conséquences d'un manque de pardon. Il y a un principe très simple en alimentation, par exemple. On sait très bien que si on mange que des choses sucrées, admettons qu'à partir de maintenant, je dise à mes enfants, maintenant vous allez manger que des desserts, je vais vous donner que du dessert, que des choses sucrées. Ça ne va pas être bon pour eux et ils risquent de développer des maladies. Au contraire, dans l'alimentation, on va essayer de donner de tout pour avoir une alimentation équilibrée. Ça, c'est des principes alimentaires. On le respecte dans l'alimentation. Mais il y a des principes spirituels qui sont identiques. C'est que pour notre bonne santé spirituelle, il nous faut les mettre en pratique. Et la personne qui ne pardonne pas, spirituellement, elle va être malade. Elle va se priver de bénédiction parce qu'elle ne respecte pas les bons principes spirituels que Dieu nous dit. Pardonner si quelqu'un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Là, c'était la première question. Pourquoi doit-on pardonner? Alors, on a vu toutes ces réponses. Deuxième question, qui doit-on pardonner? Il y a deux possibilités. D'abord, on va voir le cas de l'Église, les frères et sœurs, Luc chapitre 17 et le verset 3. Luc 17, verset 3. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui, et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Il est question ici d'un frère, et on va parler du pardon dans l'Église, du pardon entre frères et sœurs dans la foi. L'Église est comparable à une grande famille, et c'est bien les grandes familles, c'est formidable, parce qu'on est, c'est même plus grand que notre Église ici à Toulouse, c'est tous les chrétiens du monde entier, ça forme la famille de Dieu. Alors quelque part c'est extraordinaire, mais d'un autre côté, en multipliant le nombre, ça multiplie aussi les potentiels de conflits, de difficultés. Et donc on a plein de frères et sœurs, ça c'est formidable, oui, mais aussi ça ne se passe pas toujours sans difficulté entre les frères et sœurs. De même que dans une grande famille, il y a parfois les enfants, vous avez remarqué, les enfants des fois ils se disputent, ils vont se chamailler parce qu'il y en a un qui va avoir... un truc que l'autre il n'a pas eu, et il va y avoir comme ça des rivalités. Certains vont s'énerver, alors des fois ils ne sont pas tendres entre eux, ils se donnent des coups de poing, ils se tirent les cheveux, ils se font mal. Alors nous on est là pour intervenir, les parents on dit, on essaie d'apaiser les querelles, on essaie d'expliquer. Mais néanmoins, dans les familles, on le voit, il y a des tensions. Et c'est vrai aussi dans l'Église. Alors que dit la parole de Dieu? Si ton frère a fait quelque chose de mal, ben voilà, tu le prends à part et tu lui dis ce que tu as fait n'est pas bien. Alors, c'est intéressant comme la chose est présentée dans la parole de Dieu, car on ne rejette pas la personne en tant que frère, mais on lui dit que la chose qu'elle a commise n'est pas bien. Et chez nous, il y a cette fâcheuse méprise de confondre les personnes et les actes. Et souvent, quand une personne a fait quelque chose de mal à notre encontre, on rejette la personne. Et on a du mal à dissocier les choses. La difficulté dans le pardon vient de là, c'est que quelqu'un qui nous a fait du mal, on pense que c'est une mauvaise personne et qu'il faut absolument qu'elle soit mise de côté et on la rejette. Donc, si on considère le pardon dans la parole de Dieu, on peut voir cette personne et lui dire ce que tu as fait. C'est-à-dire, ce n'est pas toi que je rejette en tant que personne. Tu es toujours mon frère, tu es toujours ma sœur, mais ce que tu as fait là n'est pas bien, et c'est sur ce point-là que je te dis qu'à ce moment-là, il faut régler la chose. Ainsi, si on distingue cette chose, c'est important. De même, on peut prendre un autre exemple. Quand une sœur ou un frère dit quelque chose de mal, on la prend à part, on lui dit « ce que tu as dit là n'est pas bien ». On ne rejette pas la sœur en tant que personne ou le frère en tant que personne, mais on précise que ses propos n'ont pas été corrects. Et ainsi, ça permet que la personne en prenne conscience, se repente et demande pardon. C'est ce qui est dit dans ce texte. Donc, la difficulté du pardon, souvent ça vient de cette pensée qui est fausse, c'est que de dire qu'une fois qu'on est chrétien, on ne va plus jamais faire rien de mal ou plus jamais dire rien de mal. Et si un chrétien dit quelque chose de mal ou fait quelque chose de mal, ce n'est pas un chrétien. On raisonne un peu comme ça, un peu d'une manière catégorique. Et ce qui fait que ça bloque tout de suite le pardon. Et on se dit, je ne vais pas lui pardonner parce que cette personne n'est pas bonne, elle n'est pas bien, etc. Après, on va citer la parole de Dieu, on va essayer de se justifier, alors que la parole de Dieu ne nous dit pas de faire comme ça. Elle nous dit de prendre la personne à part, de lui dire ce que tu as dit n'est pas bien ou ce que tu as fait n'est pas bien, et ensuite que la personne puisse reconnaître son péché, confesser, et ensuite la personne offensée peut pardonner. Vraiment, quand nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu, nous allons à l'envers de sa volonté. Alors on doit pardonner les frères et sœurs, mais ce n'est pas tout. Dans Matthieu chapitre 6, verset 12, on peut aussi pardonner aux non-croyants. Matthieu chapitre 6 et verset 12. Car là encore, dans cette prière du Notre Père, il est dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Dans ceux qui nous ont offensés, il n'y a pas forcément que des croyants, il y a aussi les non-croyants. Une offense, c'est une parole ou une action qui va nous blesser. Alors l'offense peut venir de partout. Je le disais tout à l'heure, ça peut venir d'une famille, à l'intérieur d'une famille, ça peut venir d'un collègue de travail, ça peut venir d'un voisin, ça peut venir de notre entourage. Donc l'offense, elle survient. Comment est-ce que je vais réagir quand je suis offensé? Eh bien, dans le cas d'un non-croyant, on ne peut pas forcément s'attendre à ce qu'il vienne nous demander pardon. C'est demander aux chrétiens. Mais ça serait normal qu'il vienne demander pardon, mais s'il est non-croyant, il peut aussi se bloquer et ne pas vouloir demander pardon. Dans ce cas, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que nous allons le pardonner s'il ne nous demande pas pardon? La Bible recommande de pardonner, même si la personne ne nous demande pas pardon, puisqu'il est dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Donc, le pardon doit être là. Et pourquoi est-ce que nous devons pardonner quand même? Parce que si nous ne pardonnons pas, nous allons subir les conséquences d'un non-pardon qui va être l'amertume, qui va être des souffrances, on va perdre la louange, on va avoir un esprit abattu, et ce n'est pas ainsi qu'on va pouvoir combattre l'adversaire et qu'on va pouvoir vivre une vie chrétienne authentique. Donc nous savons que dans ce monde, on va connaître certains rejets, on va peut-être même nous faire du mal à cause de notre foi, et quelle doit être notre attitude ? On revient à la prière du Notre Père, on pardonne nos offenses parce que Dieu nous a pardonné, alors nous aussi, nous devons pardonner ceux qui nous font du mal. Alors qui pardonner? On voit qu'il y a les frères et sœurs. Dans le cas des frères et sœurs, il est demandé à la personne qui a offensé de venir demander pardon à son frère et au frère de pardonner la personne offensée. Dans le cas des non-croyants, il est demandé de pardonner de toute manière, de pardonner car cette personne ne va pas forcément venir demander pardon. Enfin, troisième question, combien de fois doit-on pardonner? Et cette question, on la retrouve dans la bouche de Pierre, dans Matthieu 18 et au verset 21. Combien de fois doit-on pardonner? Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. » Alors Pierre pose ici le problème de la récidive, de ceux qui offensent et qui offensent et qui offensent et qui demandent pardon et qui offensent encore et qui demandent pardon et qui offensent. Alors certains retombent malheureusement dans les mêmes problèmes. On a beau les exhorter, les encourager, leur dire de faire attention, ils retombent dans les mêmes pièges. Alors qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là ? Première chose qu'on peut dire, c'est qu'on ne peut pas changer une personne. Il n'y a que Dieu qui peut faire ce miracle. Par contre, on peut prier pour cette personne afin qu'elle ne retombe pas sans cesse dans les mêmes problèmes, parce que si elle revient constamment demander pardon, c'est qu'à nouveau elle offense à chaque fois, et ça ne va pas, c'est qu'il y a un problème dans sa vie. Et on va l'exhorter, on va lui pardonner, mais la situation n'est pas normale, et ces chrétiens sont appelés à évoluer. Alors il est vrai que certains vont évoluer très doucement, mais néanmoins, on doit tous évoluer, et pas se cantonner de rester comme on est. Donc, Pierre, lui, quand il parle, il dit « Seigneur, est-ce que je peux pardonner jusqu'à 7 fois ? Est-ce que c'est le maximum qu'on peut faire ?» Et Jésus va lui répondre, non pas 7 fois, mais 70 fois 7, ça fait 490 fois, c'est un gros chiffre. Et si on regarde Luc 17, il nous est dit « dans un jour ». 490 fois dans un jour, certains ont calculé, ça fait à peu près toutes les 2 minutes de pardonner. En réalité, qu'est-ce que Dieu nous demande ? C'est d'avoir une attitude prompte au pardon et d'avoir un cœur sensible à quelqu'un qui vient sincèrement demander pardon. Maintenant, cette personne, si elle récidive sans cesse, il est quand même question qu'elle se pose des questions et qu'elle ne continue pas toujours dans les mêmes travers et qu'elle supplie Dieu de changer son cœur, son état d'esprit, afin qu'elle ne vienne pas toujours blesser, offenser la même personne. En tout cas, ce que Jésus veut dire, c'est que pour celui qui veut pardonner, il n'y a pas de limite dans le pardon, jusqu'à 490 fois, donc ça veut dire tout le temps il faut avoir cette attitude de pardon. Quatrième question, comment devons-nous pardonner ? Et là on peut lire Éphésiens chapitre 4, verset 31. Éphésiens 4, 31, qui dit ceci, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alors il est d'abord parlé du pardon, de se pardonner réciproquement. Alors attention, ce verset ne veut pas dire que la personne offensée doit demander pardon elle-même si elle n'est pas coupable. C'est à la personne qui a fait le mal de demander pardon, on est bien d'accord, la personne offensée est une victime. Donc c'est l'offenseur qui doit demander pardon, et dans le cas où l'offensé refuse son pardon, parce que c'est aussi un cas malheureusement qui peut se produire, c'est que celui qui a fait du mal le reconnaît, va demander pardon, mais la personne offensée refuse de pardonner. Bien, dans ce cas, il se place lui-même sous le jugement de Dieu, parce qu'il doit pardonner et il refuse de pardonner. Si le pardon est demandé de la part de l'offenseur, bien, nous, chrétiens, nous devons pardonner. Alors, nous devons le mettre en pratique. Ce qui empêche le pardon, ça sera l'orgueil, ça sera le désir d'avoir raison à tout prix, ou le jugement que l'on porte sur le frère ou la sœur en question, en disant « c'est pas un vrai chrétien », comme je disais tout à l'heure. On considère que puisqu'il a fait le mal, il n'est pas vraiment chrétien. Donc, on se place en juge. Et en réalité, quand quelqu'un vient humblement demander pardon, comment est-ce qu'on peut lui refuser ? S'il reconnaît sa faute, il dit « je reconnais mes torts, qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner ?» et qu'il demande pardon, on pardonne. On ne la laisse pas sous une sorte de culpabilité, de jugement, mais on pardonne comme réciproquement. Donc, et comme Dieu vous a pardonné en Christ, dit le texte. Comme Dieu nous a pardonné, on en a parlé un peu, que le pardon de Dieu, c'est déjà une grâce. Et si nous sommes pardonnés, ce n'est pas à cause de nos mérites. Et nous-mêmes, on va pardonner comme une grâce. On va le faire aussi. Et en fait, notre pardon va puiser son origine dans le pardon de Dieu. Et on peut faire grâce aux autres parce que nous-mêmes, on a bénéficié de la grâce. Maintenant, frères et sœurs, est-ce que nous avons bien compris ce que c'est que la grâce de Dieu et que nous avons été pardonnés par grâce ? Si on n'a pas bien compris ça, si on ne le vit pas dans notre vie, on ne peut pas faire grâce aux autres, on ne peut pas pardonner les autres. C'est pour ça qu'il nous faut réaliser que si nous sommes enfants de Dieu, si nous pouvons louer le Seigneur, c'est parce que Dieu nous a aimés le premier, qu'il nous a pardonné en Christ et que nous sommes des nouvelles créatures. Donc le pardon, il vient vraiment de Dieu. Pardonner réciproquement, pardonner comme Dieu nous a pardonné, et puis on pourrait lire Matthieu 18, 35, pardonner de tout notre cœur. Matthieu chapitre 18, verset 35. Ça, c'est par rapport à un petit reste d'amertume, dans le sens où la personne pardonne mais n'oublie pas. Et là, il est dit, « C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas un pardon du bout des lèvres, un pardon superficiel. Au contraire, nous devons pardonner de tout le cœur. On a été offensé profondément, on a été blessé. Eh bien, on doit en même temps être délivré de toute cette souffrance et toute cette blessure en pardonnant sincèrement. Je me rappelle de ce témoignage d'une femme qui avait vécu un enlèvement dans un cambriolage. Il y avait une famille qui avait été enlevée et la femme témoignait qu'elle s'est retrouvée donc dans le tribunal avec l'homme qui avait fait cet enlèvement. Elle était une victime. Et puis le bandit lui demandait pardon dans le tribunal. Et elle a dit qu'à ce moment-là, elle lui a pardonné. Et quelques années après, on lui a posé la question, mais est-ce que vous avez vraiment pardonné ? Et cette femme a dit ceci, « Je regrette de lui avoir dit que je lui pardonnais, parce que dans mon cœur, je lui pardonnerai jamais. » En fait, dans son cœur, elle n'avait pas pardonné et elle ne pardonnera jamais. Et c'est ça que Dieu veut attirer notre attention, c'est que si on agit comme ça dans la vie chrétienne et qu'on dit pardon, on dit « Allez, je te pardonne », mais du bout des lèvres, mais que dans notre cœur, on n'a pas pardonné et qu'on a toujours une animosité, on a toujours de la haine envers la personne, au moindre problème, ça va recommencer. Il suffira à nouveau qu'il y ait une tension, un conflit, et ça va dégénérer, et le problème n'est pas résolu. Donc tant qu'on n'a pas pardonné de tout son cœur, on peut dire qu'on n'a pas finalement pardonné vraiment. Alors ce n'est pas si facile de pardonner comme ça, et c'est pourtant nécessaire, parce que si on ne le fait pas, les racines d'amertume vont continuer un travail de sape à l'intérieur et ça va infecter toute notre vie. Au contraire, la Bible dit si on pardonne de tout notre cœur, ça permet un nouveau départ dans la relation avec le frère, avec la sœur et ça permet de tourner la page. Donc comment devons-nous pardonner ? Réciproquement, comme Dieu nous a pardonné et enfin de tout notre cœur. Il y a une question qui m'est venue en méditant sur ce sujet, c'est « Peut-on tout pardonner ?» Et la pensée de ce verset de Jésus m'est venue dans Luc 23, 33. « Peut-on tout pardonner ?» Il y a des choses quand même qui sont graves. Jésus est là sur la croix. Lui, innocent, il a été crucifié comme un meurtrier. On vient de libérer Barabbas qui, lui, aurait dû se retrouver sur la croix. Jésus, lui, n'a jamais rien fait de mal. Et il dit « Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, ils crucifièrent là Jésus ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. » Jésus était quand même en mauvaise compagnie malgré tout. Il y avait deux malfaiteurs à côté de lui. Et Jésus dit, « Père, pardonne-leur. » À qui il dit ça ? Aux gens qui l'ont crucifié, « car ils ne savent ce qu'ils font. » Est-ce qu'on peut pardonner ça ? Est-ce qu'on peut pardonner l'injustice ? Il y a des situations où vraiment, vraiment, c'est difficile de pardonner. Et on en connaît certaines, lorsque un ami ou un chrétien vous outrage, vous calomnie, c'est difficile de pardonner. Lorsqu'une personne a été victime d'un viol, c'est difficile de pardonner. On peut dire, allez, tu dois pardonner à ton agresseur. C'est difficile pour la personne de pardonner. Lorsqu'un chauffard vous a pris un mari, c'est difficile de pardonner au chauffard. J'ai cet exemple d'un ami pasteur qui allait à Paris dans sa voiture et en face il y avait des étrangers qui venaient, donc lui il était sur la sortie de la bretelle d'autoroute et puis la voiture qui arrivait en face, je crois que c'était un pays du nordique de l'Europe, au lieu d'être sur sa voie, ils se sont mis sur la voie où était le frère dans son minibus et il n'a pas changé de voie, il est allé toujours tout droit et puis lui aussi il était contre le mur, il ne pouvait pas se déplacer et ils se sont percutés. Et ce pasteur, il avait à côté de lui un chrétien de son église qui l'emmenait pour un déménagement. C'était un homme marié avec un enfant. Eh bien, il est mort dans cet accident. Et pour la femme chrétienne, quand le pasteur a dû lui expliquer ça, c'était terrible. Comment voulez-vous pardonner ? Et la culpabilité d'avoir emmené un frère de l'église et qui se retrouve mort dans l'accident. Lui-même, ce pasteur, il a eu une jambe coupée, sectionnée au niveau du genou. Il a perdu cela dans l'accident. Mais enfin, il avait la vie quand même, il avait la vie sauve. Comment on peut pardonner dans ces situations ? Ça paraît vraiment difficile. Lorsqu'on vous a torturé, je me rappelle de ce film qu'on a vu, Bambou en hiver, torturé à cause de sa foi, une chrétienne en Chine. Et c'était l'histoire donc d'un couple, donc il y avait une fille, et la mère dans ce couple avait été torturée et avait été morte dans d'affreuses souffrances parce qu'elle croyait en Jésus. C'est pour ça que le mari avait rétrogradé et qu'il ne voulait surtout pas que sa fille elle vienne à Jésus un jour. Et puis sa fille s'était convertie, puis elle voulait servir le Seigneur. Et donc, quand elle a appris que sa mère était morte dans ces conditions, comment on peut pardonner à des bourreaux qui vous ont pris votre mère, qui vous ont torturé, qui vous ont fait du mal? En fait, humainement, on peut dire que c'est impossible. Il y a des situations où ça paraît impossible de pardonner. Et je pense à Jésus sur la croix. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » C'est que Christ a trouvé le moyen de pardonner l'impardonnable. Seul Dieu peut nous aider à pardonner dans des situations où on nous a fait du mal injustement. Je prends l'exemple, pour terminer ce point, de Corrie ten Boom, qui est une femme remarquable, qui, à cause de sa foi et de son amour pour le peuple de Dieu, a gardé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, mais elle a été découverte, elle et sa famille ont été arrêtées, déportée en camp de concentration. Dans le camp de concentration, son père est mort dans la maltraitance, sa sœur est morte presque sous ses yeux. Elle a subi des humiliations, elle a subi des tortures, des sévices de toutes sortes. Et malgré tout, elle avait une petite portion de la parole de Dieu qu'elle gardait et elle tenait à partager la Bible avec les autres dans le camp. Et puis quand la guerre a été terminée, qu'elle a pu sortir de là, elle a commencé à témoigner du pardon, de l'amour de Dieu, et elle a commencé à parler sur ce sujet qu'il fallait pardonner à nos ennemis. Et elle s'est retrouvée dans une conférence en Allemagne, parce qu'elle a commencé à voyager dans différents pays. Et il se trouve que dans cette conférence, après qu'elle a parlé sur le pardon, elle a donné son témoignage, et qu'elle pardonnait à tous ceux qui lui avaient fait du mal, il se trouve qu'il y avait là un homme qui était là dans le camp où elle a été torturée, et qui, à la sortie, lui a tendu la main en lui disant « J'ai entendu dans votre discours que vous avez pardonné toutes ces personnes. » Lui-même, c'était maintenant un chrétien, donc après le camp, cet homme qui avait rencontré Jésus vivait différemment. Hein, il n'était plus ce nazi, ce SS, mais il était un chrétien maintenant. Et il dit « Moi, je sais que Dieu m'a pardonné toutes ces atrocités, mais j'aimerais savoir si vous pouvez me pardonner à moi tout le mal que je vous ai fait subir dans ce camp. » Et là, elle écrit, Corrie ten Boom, que quand il tendait la main, il y a toutes les images du passé qui lui sont revenues en mémoire, parce que c'était une souffrance dans son âme, et on peut le comprendre, et elle dit qu'elle n'arrivait pas à le pardonner. Elle n'arrivait pas à le pardonner, ça a duré quelques secondes, et dans un élan de foi, elle a tendu sa main, et elle explique à ce moment-là, elle a prié « Seigneur, donne-moi la force de lui pardonner. » Parce qu'elle n'y arrivait pas. Et elle a justement cité ce texte. Elle s'est rappelée du cri de Jésus à la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et il se trouve que, en tendant la main, elle dit, elle exprime ça comme ça, c'est qu'elle a reçu dans son cœur le pardon de Dieu. Et elle a reçu la force de pardonner à cet homme, comme quelque chose de surnaturel, elle dit, « Un pardon surnaturel a envahi mon cœur. » Et tout sentiment d'amertume disparut en elle, et ça fut remplacé par de la joie, par la puissance du Saint-Esprit. Et elle explique un peu plus loin que ce fait-là, d'avoir pardonné l'impardonnable, lui a permis de rajeunir de 10 ans et d'avoir un service pour Dieu encore plus puissant, parce qu'elle est allée dans beaucoup de pays pour annoncer le message du pardon, et ça a amené beaucoup d'âme au Seigneur, cette affaire-là, parce qu'un jour, en Allemagne, dans une réunion, elle a pardonné à un homme qui l'avait fait tellement tellement souffrir lui et toute sa famille. Donc vous voyez, cet exemple-là, il est fort et il est parlant pour nous montrer qu'il y a des situations, même si on ne peut pas pardonner, ben, on peut recevoir un pardon surnaturel qui va venir s'implanter dans notre cœur, c'est un miracle, hein, et qui va nous permettre de pardonner les personnes qui nous ont fait vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Et puis, sixième point, les conséquences du manque de pardon, car il faut en dire quelques mots. Je l'ai dit, pardonner, c'est une liberté. Dieu nous le demande, mais on est quand même libre et responsable. L'un va pardonner, peut-être l'autre ne va pas pardonner. Si nous ne pardonnons pas, il y a trois points importants qui vont se produire. Premier point, ça va être un obstacle à nos prières. Marc, chapitre 11, verset 25. Marc 11, verset 25. « Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Alors cette personne est en train de prier, et elle va prier, elle va peut-être jeûner, elle va lire la parole de Dieu, c'est très bien. Mais Dieu lui dit, avant de faire tout cela, tu dois déjà pardonner à ton frère, ta soeur. Sinon ta prière, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle n'aura pas d'impact. Tu vas prier, mais tu as un manque de pardon dans ton cœur. Et c'est pour ça que tu ne seras pas exaucé, que ta prière n'atteindra pas le trône de Dieu. Et tant qu'il y a de l'amertume, tant qu'un problème n'est pas réglé, cette personne ne va pas avoir d'autorité spirituelle. Je reviens à notre sujet parce que vous allez voir que les choses sont liées à cela. Parce que quand on prie dans la foi et dans le nom de Jésus, c'est une autorité spirituelle que l'on a. Mais si on a un manque de pardon dans notre cœur, on va prier et la prière ne va pas aboutir. Quelque part, c'est comme si on voulait jeter un projectile très loin puis qu'il va tomber juste à terre devant nous. Elle ne va pas produire d'effet, elle ne va rien faire du tout, ça sera une prière morte. Première conséquence au manque de pardon, l'obstacle à nos prières. Deuxième conséquence, Marc chapitre 11, c'est le verset suivant, le verset 26, c'est le non-pardon de Dieu. Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. On voit bien que c'est un cas de figure possible, si vous ne pardonnez pas. Donc il y en a qui peuvent s'entêter à ne pas pardonner. Eh bien, ils ont la conséquence, Dieu ne vous pardonnera pas non plus. Et si Dieu ne nous pardonne pas, frères et sœurs, on est perdu. Il nous faut absolument le pardon de Dieu. Et en fait, Dieu va nous pardonner en fonction de la manière dont nous pardonnons. Il y a une belle parabole dans l'évangile de Matthieu 18 qui nous montre cela. On n'a pas le temps de la voir, mais un roi qui fit rendre des comptes à son débiteur, c'est la parabole de celui qui devait 10 000 talents. Le roi lui pardonne, et quand il sort de là, lui, il ne pardonne pas à celui qui lui devait une somme modique et qui va le juger. Et voilà que le roi, il est au courant de cette affaire, et il a dit, mais tu aurais dû avoir pitié de ton frère, comme moi-même j'ai eu pitié de toi. Et on va voir que cet homme ne va pas être pardonné, qu'il va retourner en prison, parce que c'est lui-même qui a manqué de pardon envers les autres. Donc, deuxième conséquence, on a dit, on ne sera pas pardonné par Dieu. Et troisième conséquence, on est en train de donner un avantage à Satan. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 2, et au verset 10. « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai à pardonner quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Le manque de pardon nous affaiblit tellement spirituellement que nous donnons à Satan un droit sur notre vie. Nous lui donnons un avantage. Ça, c'est grave. Le diable, il fera tout pour qu'on pardonne jamais et puis que jamais personne ne demande pardon, parce qu'il hait le pardon, il le déteste, il veut la rancune, il veut que vous soyez dans l'amertume, il veut que vous soyez dans la vengeance, avec un esprit de violence. Mais, frères et sœurs, il nous faut prendre position, parce que moi, je n'ai pas l'intention de laisser à Satan l'avantage, j'espère que vous non plus, et pour cela, il me faut pardonner et vivre conformément à la parole de Dieu. Est-ce que je veux faire l'œuvre de Dieu, ou est-ce que je veux laisser à Satan l'avantage sur ma vie? C'est à chacun de répondre, mais en tout cas, le texte est clair, il nous faut prendre position pour le Seigneur. En conclusion, le pardon, on a vu, c'est indispensable. Et il n'y a pas de progrès spirituel sans pardon. Il n'y a pas de vie spirituelle sans pardon. Si quelqu'un ne veut pas pardonner, Dieu le voit, il est sous un jugement. Mais j'aimerais dire, et je reviens encore à ce thème de l'autorité spirituelle, celui qui ne veut pas pardonner, Dieu le voit, mais Satan le voit aussi, et Satan sait qu'il a un droit sur la vie de cet homme ou de cette femme, et que cette personne, maintenant, l'ennemi a pris l'avantage sur lui. Et donc, cette personne ne pourra pas avoir d'autorité spirituelle, ni avancer dans la vie de l'esprit, ni aller plus loin avec Dieu, parce qu'il va être affaibli spirituellement. Alors, tant qu'on n'a pas pardonné, il y a un vrai contentieux avec Dieu, avec le prochain, et il faut le faire, parce que sinon on n'aura pas la paix, et on ne pourra pas progresser comme Dieu nous le demande. On va prier un instant, terminer ces instants en demandant à Dieu sa grâce. J'ai déjà parlé, hein, il y a 15 jours, de la nécessité de demander pardon quand on a fait du mal. Ça, c'est la confession des péchés. Ici, c'est un petit peu l'autre côté. C'est la part de l'offensé qui doit aussi pardonner celui qui lui a fait du mal. Le pardon. On voit que les deux choses sont complémentaires et qu'on a besoin à la fois d'exercer, de faire ce qu'on a à faire, c'est-à-dire de demander pardon quand on a fait du mal ou dit du mal, mais aussi, si quelqu'un nous a fait du mal, de pardonner cette personne. Et c'est très important de vivre ces deux aspects du pardon. Pardon, c'est à deux sens. Et si quelqu'un vit dans cette situation, qu'il n'arrive pas à pardonner et qu'il n'arrive pas à... et qui dans son cœur, il y a toujours cette pensée d'amertume, cette pensée même de vengeance. Le Seigneur seul peut vous en délivrer, simplement prier. On va prier Dieu qu'il puisse vous accorder le pardon divin, un petit peu comme cette sœur Corrie ten Boom l'a reçu dans son cœur, un pardon surnaturel qui va vous donner la force de pouvoir pardonner à votre frère, à votre sœur, ou quelqu'un de votre famille, ou quelqu'un au travail, afin que vous soyez libérés. Car tant qu'on n'a pas pardonné, on est lié, on est oppressé. L'ennemi se joue de cela, et il vous attaque, il vous perturbe avec ces choses. Pour ça, c'est indispensable. Merci Seigneur pour ta parole, qui nous rappelle ces choses essentielles, que nous voulons mettre en pratique. C'est vrai que nous sommes libres et responsables, et je te prie pour que chacun prenne sa position, et accepte de se soumettre à ta parole. Seigneur, je te prie pour mon frère, ma sœur, peut-être qui a été offensé, qui a été blessé, qui n'arrive pas à pardonner, qui n'arrive pas à surmonter ce cap, afin que tu lui donnes la force de pouvoir le faire et la ressource d'en haut pour pardonner à tous ceux qui nous font du mal. Merci Seigneur de nous aider à vivre pleinement ta parole. Nous voyons que même humainement, cela paraît impossible. Mais nous avons recours à la prière en cet instant, te supplier de bénir mon frère, ma sœur, celui qui passe par cette situation et qui a besoin d'être délivré d'un manque de pardon. Seigneur, toi seul peux agir en profondeur dans les cœurs. Délivrer de toute racine d'amertume, d'animosité, de haine, de rancœur, afin que nous soyons libérés, affranchis, vivant dans la lumière et délivrés de tout fardeau, de toute angoisse et de tout souci. Dans le nom de Jésus, te prions de nous garder le reste de cette journée dans ta paix et à toi toute la gloire. Amen.